Vous allez voir que je suis très bon en arithmétique. Et le titre du message, c'est 10 plus 10 égale 1. Hein, c'est un peu comme quand le premier cours d'algèbre, quand je suis rentré au secondaire, puis mon professeur d'algèbre, M. Yankovitch, un pur Québécois. Et puis, il est sorti comme ça à un moment donné, puis il arrive avec une chose comme ça. Je vais vous prouver que 1 plus 1 égale 0. Et avec toutes sortes de passe-passe algébriques, on est arrivé à 0. Et ce matin, je vais vous prouver que 10 plus 10 égale 1. Prions, s'il vous plaît, ensemble. Bon et tendre Père, on veut te louer, te remercier pour ta parole. Nous ne dirons jamais assez, Seigneur, combien la parole que tu nous as laissée, toi qui nous parles, nous est précieuse. Tu nous enseignes, tu nous parles. Tu as voulu, Seigneur, nous parler par le Fils, vu qu'on est dans le Nouveau Testament. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous instruis jour après jour durant toute notre vie. Parle à nos cœurs ce matin, dans cette petite histoire que nous allons voir ensemble, qui s'est passée il y a 2000 ans. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous parles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Lisons ensemble ce passage-là, s'il vous plaît. Verset 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux, comprenez pourquoi je dis 10, hein? 10 lépreux, vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous! » En les voyant, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Merci, frère bien-aimé. Adrien. C'est pas pire, hein? Pour un sourd, j'ai entendu Adrien. Je l'ai reconnu en plus. Guérison miraculeuse, encore une fois. Et les guérisons miraculeuses faisaient partie du ministère de Jésus. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 23, allez-y pas, je vais vous lire tout un paquet de références, là. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait la Galilée et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dans Matthieu 9, 35, il prêchait la parole guérissant toute maladie et infirmité. Dans Matthieu 14, verset 14, avant de nourrir 5 000 hommes, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Dans Matthieu 15, 30, avant de nourrir 4 000 hommes, il vit de grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades, et il les guérit. Matthieu 19, 2, à l'est du Jourdain, de grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Dans Matthieu 21, 14, au cours de la semaine de la Passion, des aveugles, des boiteux s'approchèrent de lui et il les guérit. Ce sont toutes des guérisons miraculeuses, exact. Bravo, des guérisons miraculeuses. Donc, c'est des choses qui ne sont pas étrangères à ce que Jésus a fait. Ces guérisons sont une preuve irréfutable, OK, de la divinité de Jésus-Christ. Et appuie sa déclaration d'être Dieu lui-même. J'aimerais que quelqu'un avec une voix puissante, ou à moins que quelqu'un ait un micro, puis « Ah, Étienne, il court chercher le micro », Et qu'on tourne dans Jean 10, versets 37-38, celui qui va me le lire ou celle qui va me le lire se lève et Étienne va vous donner un micro. Sinon, je désigne des volontaires, sinon. Hein, j'ai été dans les cadets, moi j'étais bien bon là-dedans. OK, qui va me le lire? On se lève, merci. Bravo. Alors, Étienne à court pour vous donner un micro. Jean 10, versets 37 et 38.
Allons-y. Jean 10, 37 et 38.
Oui.
Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père.
Amen. Merci beaucoup. Donc, les œuvres que Jésus a faites, entre autres les miracles, sont une preuve indiscutable de la divinité de Jésus-Christ. Nous sommes là présentement dans le passage qu'on vient de lire sur les 10 lépreux, dans le dernier voyage de Jésus vers Jérusalem. C'est le 4e miracle de 5 que Jésus rapporte dans son évangile. 5 miracles, en voilà juste un qu'il rapporte. Le miracle démontre la puissance divine de Jésus et on voit qu'il ne fait pas juste un miracle dans ce qu'on voit là, mais il en fait 10. Mais je vais vous prouver qu'il en fait 11. Je suis bon en mathématiques, hein? J'espère que vous allez vous en rappeler que je suis bon en mathématiques. 10 lépreux, la lèpre. Alors, c'est une maladie qu'on ne connaît pas en Amérique du Nord. C'est une maladie qui est pas mal éradiquée généralement à travers le monde aujourd'hui, la lèpre, mais dans ce temps-là, la lèpre était une maladie honteuse de la peau et des nerfs qui emportait des morceaux. C'était pas beau à voir. Assez commune en Israël dans ce temps-là, assez commune pour que la loi mosaïque lui associe des mesures réglementaires détaillées pour ceux qui en souffraient. Étant transmissible, il faut que je le lise, hein, je connais pas très très bien la lèpre, là, puis, corrigez-moi pas, là, mais c'est pas une maladie qu'on connaît beaucoup maintenant. Étant transmissible par le contact et par la respiration, les porteurs de cette maladie vivaient en marge de la société, à distance, et étaient considérés comme châtiés de Dieu. On va développer ça un petit peu tout à l'heure. Coupés de leur famille, de leurs amis, bannis du reste de la société et même associés à un jugement divin à cause de leur péché. Alors imaginez-vous le poids que ces gens-là, hommes ou femmes, portaient. Non seulement ils étaient atteints d'une maladie qui les faisait qu'on les mettait à la porte, hein, c'est comme si, par exemple, moi j'ai la lèpre à la maison, on vient de découvrir que j'ai la lèpre, et tous ceux de ma maison me mettent en dehors de la maison parce que si je reste dans la maison devient... Qu'est-ce qu'il a dit? Non, quand il y a ça, c'est pas ça. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ça le pire. Elle devient impure. Impure. Et quand une maison est impure, tous ceux qui y habitent sont impurs. Hein? Ça faisait partie de la loi mosaïque, tout ça. Alors, imaginez-vous, on me prend par le collet, en réalité, on ne me touche pas, là, mais on m'envoie dehors et on m'envoie dans des endroits où je... loin de tout le monde. Tu n'exerces plus tes responsabilités familiales, tu n'exerces plus rien, tu ne vas plus au travail, et ainsi de suite. Même dans le temple, il y avait un endroit, un petit endroit réservé aux lépreux et tout le monde se tenait loin de cet endroit. Ce n'est pas de deux lépreux qui ont été guéris physiquement, mais aussi un homme qui a été guéri spirituellement. On va développer un peu plus loin. Ces 10 lépreux viennent à sa rencontre et se tenaient à distance. Leur condition faisait qu'ils étaient bannis de Jérusalem, interdits de s'approcher. Écoutez ça, ils étaient interdits de s'approcher à moins de 2 mètres d'une personne saine. Autrement dit, je continue avec l'exemple, c'est moi qui ai la lèpre, je ne peux pas m'approcher à plus de 2 mètres de ma femme. » Ça ne fait pas des enfants forts, ça. Et ça, c'est quand la température est bonne, OK? Parce que quand il y a du vent, je dois respecter 50 mètres. Ça ne fait pas des conversations fortes non plus. Imaginez-vous toute la douleur que ces gens-là portaient. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même à la synagogue, il y avait une loge spéciale pour eux. Non seulement isolés à cause de la maladie, mais rituellement impurs. Okay? Ce groupe d'hommes solitaires, rejetés partout. Et là, ils crient. Ça me rappelle un peu aussi Bartimée, OK? Quand Bartimée, qui est aveugle, il entend que c'est Jésus qui passe, hein? On avait un livre à la maison, mes enfants s'en rappellent, là. Et puis, quand on racontait l'idée, il y avait l'histoire, puis il y avait des images. Puis quand Bartimée crie, il dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Puis là, qu'est-ce que font les apôtres à ce moment-là? Ils disent, hey, « Tais-toi, là, fiche-lui la paix, là. C'est le maître qui passe. » Que fait Bartimée? Il ne crie pas, « Jésus, fils de David. » Non, il crie. Et là, je criais fort, là, pour que les enfants, ils riaient à chaque fois. C'était le fun. Et là, Jésus va guérir Bartimée, puis on a une image avec un Bartimée, une grosse face de Bartimée, avec des grands yeux ouverts, vu que Jésus l'a guéri. Mais c'est la même situation, là. Ici, là, les 10, alors là, il n'y en a pas juste un qui crie, il y en a 10 qui crient « Jésus, maître, aie pitié de nous ». OK. Que fait Jésus? Verset 14. En les voyant, pas très nerveux, pas si vous comprenez ça en lisant là, ce qu'on peut voir, en les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Pas plus que ça, hein? Il leur dit rien, tu sais. Et que font les 10 lépreux? Ils partent. Et le passage ne dit pas grand-chose non plus, hein? Allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. Comme si c'était quelque chose de presque normal, tu sais. C'est comme si je leur avais dit, va voir le médecin, là, puis il va te donner ta prescription, puis tu vas être guéri. Mais il arriva qu'ils furent guéris. Le mot maître, quand il dit Jésus, maître, aie pitié de nous, le mot maître n'apparaît dans le Nouveau Testament que dans l'Évangile de Luc. OK? Et il est toujours attribué à Jésus. Que veut dire ce mot maître? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le seul cas, ici, là, où ce mot maître est utilisé par d'autres, les lépreux, entre autres, que les disciples. À chaque fois que dans l'Évangile de Luc, le mot maître est utilisé, il est utilisé par les disciples. Mais ici, il est utilisé par 10 lépreux. Pourquoi est-ce que les lépreux appellent Jésus maître, d'après vous? Vous avez le droit de parler, hein? Pas de retenue après la classe. Pourquoi est-ce qu'ils appellent Jésus maître? Il n'y a pas de punition non plus, hein, si c'est une mauvaise réponse. Hein? Parce qu'il enseigne, c'est vrai. Ah, est-ce que vous pensez qu'ils reconnaissent Jésus comme fils de Dieu? Parce qu'il fait des miracles. Est-ce que ça veut dire, parce qu'il fait des miracles, qu'il est reconnu? On va aller se voir là, OK, Pierrette, ne te dérange pas. Est-ce que c'est parce qu'il fait des miracles, est-ce que ça veut dire qu'il est reconnu comme le Fils de Dieu? Non. Oui, non, pas nécessairement. Mais ils reconnaissent qu'il est quelqu'un de spécial. Quand même, je vous ai fait une petite liste des miracles tout à l'heure, qui sont répertorié dans Matthieu. Écoute bien, là, quand tu as une assemblée de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, c'est au-dessus de 20 000, et qu'il a guéri tous les malades, les estropiés, etc., ça passe pas quand même inaperçu. Même si ça arrivait à Montréal, où nous sommes, je sais pas combien de millions, là, maintenant, là, plusieurs millions à Montréal, je pense qu'on est 3 ou 4 millions dans le Grand Montréal, là, quelque chose comme ça, là, ça ne passerait pas inaperçu. Je suis garanti que ça passerait au Radio-Journal de Radio-Canada. OK? Et même les autres. Donc, ça ne passerait pas inaperçu. Donc, puis, il y a plusieurs miracles comme ça. Donc, Jésus était connu pour les miracles qu'il faisait. Et ce n'était pas des demi-miracles. OK? Ce n'était pas quelqu'un qui a été guéri parce qu'il avait un rhume des foins. Des aveugles, des extropiés, des gens qui n'avaient jamais marché de leur vie, etc. Ou encore, 10 lépreux. Pas 10 lépreux. Intéressant de voir ça, de voir ce qui se passe là. Les lépreux montrent qu'ils ont une connaissance de son pouvoir miraculeux de guérir. Jésus est la seule espérance, la seule chance de délivrance qu'ils ont. Donc, on prend pas de chance, on crie fort. Au pire aller, si ça marche pas, ça changera pas grand-chose. Ça empirera pas leur cas. Donc, ils crient fort, ils crient fort. Aie pitié de nous. Dès que Jésus les voit, il ne les guérit pas tout de suite. Est-ce qu'il aurait pu les guérir tout de suite? Il y en a qui ont été guéris, hein, quand il y a, je ne me rappelle plus lequel qui vient voir le centenier, en tout cas, il vient voir par rapport à son serviteur qui est malade à la maison, hein, puis il dit, vas-y, il est guéri. OK? Il ne l'a même pas vu, il ne s'est même pas déplacé, puis il l'a guéri. Donc, Jésus peut faire ça, hein, comme il veut, à distance, comme il veut, s'il veut. Donc, il ne guérit pas tout de suite. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. OK, pour quelle raison il fait ça? Pourquoi il ne les guérit pas tout de suite? Puis pour quelle raison il va les montrer au sacrificateur? Je ne vais pas aller là, je vais aller ici. Là. OK, pour quelle raison il leur dit d'aller voir le sacrificateur? Pour voir leur foi. Une raison. Deuxième raison. J'en vois deux, moi. Oui. Pour accomplir la loi de Moïse. Jésus se soumet à la loi de Moïse, et la loi de Moïse disait que quand un lépreux était guéri, il devait aller voir le sacrificateur qui allait attester le fait qu'il était guéri. Donc, il dit deux choses importantes. Jésus est soumis aux exigences de la loi de Moïse et il teste leur foi. Il arriva qu'ils furent guéris. Celui qui est sauvé. Deuxième point. Gardons un peu plus loin. Et alors, pendant qu'ils y allaient, il arriva, ça c'est la fin du verset 14, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre au pied de Jésus et lui rendit grâce. Tous ont supplié Jésus. Tous ont obéi au commandement d'aller voir le sacrificateur. Tous ont été guéris. Tous criaient ensemble. Tous marchaient ensemble. Il y avait une belle unité de ces 10 pauvres hommes. Cependant, l'unité se brise. L'un d'eux, rempli certainement de joie, hein, mettez-vous à sa place, OK, vous avez déjà été bien malade, là. OK, ça arrive, là. Puis tout d'un coup, là, il arriva que tu es guéri. OK, bon, mettons cela. Tu es rempli de joie. Certainement tous remplis d'étonnement. Ah, il ne s'est rien passé. Imaginez-vous, les 10 marchent, ils s'en vont voir le sacrificateur, puis tout d'un coup, ils sont guéris. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, mais il y en a un qui a pensé différemment des 9 autres. Certainement rempli d'admiration, mais il n'y en a qu'un qui revient vers Jésus. Il a compris quelque chose de plus que les 9 autres. Et il fait 3 choses. Il glorifie Dieu à haute voix. Hein? Il ne peut pas attendre. S'il glorifie Dieu à haute voix, si la parole de Dieu prend le temps de nous dire, hein, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Ça veut dire que ceux qui étaient autour de Jésus l'ont entendu, en plein ça. Hein? OK? Ma femme et moi, nous avons 9 petits-enfants. Nous en avons un qui s'appelle Charles. Quand il glorifie à haute voix, les voisins l'entendent. N'est-ce pas, Marie? OK? Je vous le dis, moi. Quand il discute avec Jacob, il discute solide. Imaginez-vous cet homme-là, là, on ne sait pas quel âge il a, mais il vient d'être guéri d'une des pires maladies au monde et il glorifie, garantie qu'on l'entend quand il glorifie Dieu à haute voix. Deuxième point, il tombe sur sa face aux pieds de Jésus. Qu'est-ce que ça démontre? Je vais aller ici, là. Qu'est-ce que ça démontre qu'il tombe sur sa face aux pieds de Jésus? L'adoration. Mais qu'est-ce que ça démontre plus que l'adoration? Wow! Hey, je vais toujours venir ici, il y a plein de réponses. Qu'est-ce que ça démontre? La puissance, mais autre chose. Oups, qui a dit ça, là? Jean-Luc, là? Il reconnaît la divinité de Jésus. Pourquoi il reconnaît la divinité de Jésus? Parce qu'on ne peut adorer que Dieu seul. Donc, il reconnaît que cet homme-là qui vient de le guérir, là, c'est pas juste n'importe qui. C'est Dieu lui-même. Et il tombe sur sa face et il adore Jésus. Il démontre par ce geste qu'il reconnaît la divinité de Jésus et il l'adore, car Dieu seul peut être ou doit être adoré. Il rend grâce. On continue. Hein? Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce? Ici. Oh, et Pierre est là. Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce? N'importe qui, autre que Pierrette quand même, il y a quelqu'un d'autre qui parle ici, là. Qu'est-ce que ça veut dire, rendre grâce?
Remercier.
Remercier. Hein? S'il y a bien quelque chose qui est difficile à dire, c'est dire merci. S'il vous plaît et merci. Il rend grâce. Merci Jésus en personne. Il remercie. Pourtant, où est-ce que Jésus l'a envoyé? Où ils sont les sacrificateurs? Au temple, OK? Jésus a envoyé les 10 hommes au temple. Qu'est-ce que les 10 hommes auraient pu faire au temple après qu'il aurait vu le sacrificateur? Ils auraient pu, les 10, remercier Dieu au temple. Mais lui revient parce qu'il y a plus que le temple. Il y a le Fils de Dieu, le Messie promis qui est là, et il vient remercier le Messie en personne. Et là, il y a une petite note qui suit. OK? Il tomba face contre terre, verset 16, au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Pour quelle raison que ce point-là est nommé ici? Ah, je fais une bonne question. Pourquoi c'est nommé que c'était un Samaritain? Est-ce que ça a de l'importance? Pardon? Ces personnes-là n'adorent pas Dieu? Non. Ces Samaritains sont des Juifs de deuxième zone. Hein? Second best. Pour quelle raison c'est important que c'est marqué un Samaritain? Fort.
C'est un païen.
Non, c'est pas un païen. C'est un Juif, mais... Ah! C'est un Juif qui était haï par les autres Juifs. La raison, c'est parce qu'il parle principalement aux autres Juifs. Puis les autres Juifs avaient une mauvaise considération des Samaritains. C'est la même chose que dans l'histoire de... Ouais, il y a ça, mais... Il y a une histoire. Hein? Voilà, tout le monde parle en même temps, c'est trop dur pour moi, ça. Celui qui était blessé, là, ça, on appelle ça la parabole du... Oui, c'est plus fort. Le bon samaritain, la parabole du bon samaritain. Il y a un gars qui est blessé, là, tout le monde passe à côté de lui, hein, il est vite, un sacrificateur, personne ne s'en occupe, font le détour, passent par-dessus, n'importe quoi, et c'est un samaritain qui s'arrête. On appelle ça la parabole du bon samaritain. C'est sûr qu'on nous parle, hein, c'est sûr qu'on nous parle. Tiens, hein? Et ici, c'est important, c'était un samaritain, un homme qui était un groupe de personnes qui étaient haïs par les Juifs, des Juifs de deuxième classe. Et là, Jésus pose une question. Hein? J'arrive. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? » La réponse est oui. « Les 9 autres, où sont-ils? » Où sont-ils? N'ont-ils pas été guéris? Vous savez, c'est comme la bonne nouvelle, c'est comme le salut. Quand on lit dans Jean 3, 16, on dit que Dieu a aimé quelques personnes. C'est ça qu'il écrit dans Jean. Dieu a tant aimé le monde, tous les habitants de la terre, qu'il a donné son Fils afin que quelques-uns, afin que tout le monde, n'importe qui, puisse être sauvé. Mais pourtant, il n'y en a qu'un qui vient au pied de la croix et qui accepte le salut. Tous, mais un seul remercie, un seul adore Jésus. Notons la remarque de Jésus, verset 18. « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Jésus? » Ah! Mais pourtant, c'est qui a guéri les 10 lépreux? Jésus. Puis là, il dit, « Pour revenir et donner gloire à Dieu. » Vous comprenez? Le lépreux qui est revenu a bien compris que cet homme-là, qui s'appelle Jésus, c'était Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Et il donnait gloire à Dieu. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? La divinité de Jésus. Et là, Jésus lui dit quelque chose de plus. Il lui dit, « Lève-toi. Ta foi t'a sauvé. » 10 lépreux, 10 guéris, égale 1. Le salut est pour tout le monde, comme la guérison de Jésus était pour toutes les 10. Mais le salut était seulement pour un. Nous voyons ici 2 miracles. 10 lépreux guéris, 1 lépreux sauvé. 10 guérisons physiques et 1 spirituelle. Luc nous fait remarquer chez cet homme sa confiance, sa gratitude, son humilité, sa consécration, son amour, sa louange, son adoration. De quel groupe fais-tu partie? Lorsque Jésus est venu sur terre, mourir sur la croix, ressusciter le 3e jour, il est venu prendre la place de la condamnation du péché, et la condamnation du péché, c'est l'enfer pour l'éternité. Aujourd'hui, parler de l'enfer n'est pas un mot à la mode. Je regrette, il y a quelques semaines, Pasteur Richard parlait du libéralisme dans la prédication, et c'est des mots qu'on n'utilise plus. L'enfer, c'est pas à la mode. C'est pas in. Mais la parole de Dieu nous parle de l'enfer. Il sera trop tard quand une personne sera morte pour lui parler de l'enfer. Si elle ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur, elle y sera en chemin. Donc, c'est maintenant qu'on doit parler de l'enfer. Jésus-Christ est venu pour prendre la condamnation du péché, de mon péché, de ton péché, sur ses épaules, lui parfait, sans péché, pour mourir à ta place, à ma place, afin que quand je le regarde et que je lui demande de me pardonner mes péchés, il me dise, Dominique, pardonnez. Et il dit la même chose qu'il a dit au lépreux, va, ta foi t'a sauvé. Même chose pour toi. Le salut, c'est quelque chose de très compliqué, mais de très simple. Ça prend de la confiance, de la gratitude, de l'humilité, de la consécration, de l'amour, de la louange et de l'adoration. Es-tu comme le Samaritain, confiant? As-tu de la gratitude? Es-tu humble, consacré, aimant, adorant et louant Jésus? Ou es-tu comme les 9 autres? Oui, ils ont été guéris de la lèpre, mais ils n'ont pas reconnu la divinité de Jésus-Christ. Aujourd'hui est le jour du salut. Hier est passé. Demain est un autre jour et on ne sait pas de quoi sera fait demain. Nous sommes peu de choses. Hein? À l'âge que ma femme et moi, on arrive maintenant, hein? J'arrive plus proche de 70 ans que de mes 20 ans, on commence à avoir beaucoup de gens qui meurent autour de nous. La vie est quelque chose sur laquelle nous n'avons aucun ou peu de contrôle. Et la mort, c'est pas si je meurs, c'est quand. À moins que le Seigneur revienne avant. As-tu une place au ciel? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que Jésus te parle à toi et te dit, je vais te préparer, je te prépare une place? Pendant que nous prions, pendant que tout le monde va avoir la tête baissée, les yeux fermés, compris, moi je vais avoir les yeux ouverts. Et si tu veux accepter Jésus-Christ ce matin comme ton sauveur personnel, fais juste te lever et je pourrai prier pour toi. Baissons la tête, prions, restons assis. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, pour le témoignage de ce Samaritain qui a reconnu ta divinité, qui a reconnu que tu étais le seul qui pouvait le sauver, qui a reconnu que tu étais fils, que tu es fils de Dieu. Ce matin, nous voulons le reconnaître, nous aussi, Seigneur, que tu as pourvu un si grand salut. Merci, Seigneur, de ce que tu nous aimes, au point de venir sur cette terre humblement donner ta vie pour nous. Merci, Seigneur, de ce que la condamnation du péché est tombée sur toi. Gloire à toi. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton obéissance à ton Père. Merci de ce que tu es allé jusqu'à la mort. Merci de ce que le troisième jour, le tombeau, ne pouvait pas te retenir, que tu es revenu à la vie, que tu es vivant au siècle des siècles, que tu intercèdes pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. Toi le seul qui mérite toute adoration et notre amour. Au nom de Jésus. Amen.